RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité internationale et africaine de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Hichem Ben Yaïch de New African Magazine et Eric Kouamo, un confrère de la chaîne privée camerounaise Equinox. Au sommaire, le Sénégal, où le 6 février dernier, Macky Sall et Emmanuel Macron ont co-présidé le troisième sommet sur le partenariat mondial pour l'éducation. Afin de garantir l'éducation des jeunes filles et d'améliorer la qualité de l'enseignement, gouvernement et partenaires privés se sont engagés à consacrer entre 2018 et 2020 2,3 milliards à ce secteur essentiel au développement des États. En seconde partie, nous parlerons du Cameroun où la crise des provinces anglophones du sud-ouest et du nord-ouest vient de connaître un nouveau développement avec l'extradition du Nigeria vers le Cameroun de 47 indépendantistes dont Ayoub Tabé, le président autoproclamé de la République d'Ambazonie. C'est la première fois qu'un pays donateur et un pays en développement co-président une conférence sur le financement de l'éducation. Depuis son lancement en 2002, le partenariat mondial pour l'éducation a permis la scolarisation de 72 millions d'enfants. Pour la période 2018-2020, l'objectif est d'en scolariser 870 millions de plus dans 89 pays. À Dakar, bailleurs de fonds et fondations philanthropiques se sont engagés à abonder le fonds à hauteur de 2,3 milliards. Faut-il se réjouir de cette annonce, Hassan Diop ?
Oui, il faut s'en réjouir parce que numérairement parlant, c'est une augmentation par rapport au dernier forum. Hein. Le dernier forum, je crois qu'il y avait une promesse de l'ordre de 1,3 et là, on a 1 milliard de plus. Donc, de ce point de vue-là, c'est un succès. Mais restons prudents, il s'agit effectivement de promesses à la fois des États et d'un certain nombre de bailleurs de fonds. Reste à savoir comment ça va se traduire in fine d'ici 2020. En tous les cas, de ce point de vue-là, ça apparaît comme un succès. Autre signe que c'est un succès, une dizaine de chefs d'État avaient fait le déplacement également de Dakar, pas seulement M. Macron, le président français. Donc il y avait d'autres chefs d'État de la sous-région. Et je crois l'accent a été mis sur la place fondamentale de l'éducation. C'est vrai qu'on en parle depuis les indépendances, on en parle avec raison d'ailleurs, mais tous les paradigmes concernant le développement. Évidemment, on parlait d'éducation, mais l'accent a été surtout mis sur l'économie, puisque tout ça a été orchestré, on le sait, par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui mettent plus l'accent sur l'économie que sur des dépenses publiques qui relèvent de l'éducation, bien que les agences spécialisées de l'éducation de l'ONU aient toujours insisté sur l'importance de l'éducation. Et à Dakar, ça a été redit, rappelé, l'éducation, c'est pas simplement un enjeu de développement, c'est aussi un enjeu face à des défis actuels contre le terrorisme, contre la radicalisation, contre l'intolérance aussi, contre aussi d'autres problèmes mondiaux et d'urgence que l'on connaît, que sont par exemple les crises migratoires. Pourquoi les jeunes partent nombreux ailleurs ? Il n'y a pas simplement l'éducation, c'est qu'il y a aussi l'éducation, mais une éducation adaptée aux besoins et aux environnements africains. Tous ces aspects-là ont été abordés, me semble-t-il, avec beaucoup de lucidité à Dakar.
Éducation pour tous, mais en particularité éducation pour les jeunes filles, Hichem Ben Yaïch.
Pas seulement, il y a une problématique globale. La question majeure de l'Afrique, c'est la bataille de l'éducation. Je pense que il y a deux éléments contradictoires. Il y a cet espoir de scolarisation, de faire monter dans le train une bonne partie de jeunes dans cette éducation, mais en même temps, il y a une déscolarisation, il y a un processus inverse et c'est un enjeu sur lequel l'Afrique doit se pencher et attaquer, parce qu'aujourd'hui c'est une question fondamentale pour le développement de l'Afrique et les années à venir, on le voit avec la révolution digitale et surtout l'intelligence artificielle.
Alors justement, Hassan Diop, est-ce que les États africains ont les moyens de leur politique en matière d'éducation? Ils devraient consacrer 20% de leur budget à l'éducation, ce n'est pas le cas. On a vu que le Sénégal a fait une annonce. Est-ce que c'est suffisant?
Alors le Sénégal a fait une annonce, le Sénégal a contribué de manière symbolique d'ailleurs à hauteur de 2 millions de dollars à ce fonds. Effectivement, l'éducation a toujours été le parent pauvre dans nos pays. Il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi ça a été le parent pauvre? Tout simplement parce qu'on avait des systèmes politiques qui faisaient que, ou qui font que les gens éduquer gêne les pouvoirs en place. Et que donc, éclairer son peuple, c'est éduquer son peuple. Or, en les éduquant, je veux dire, on fait des gens qui ont une capacité de discernement, une capacité à avoir des opinions, à agir, etc., dans la vie quotidienne, sur la vie sociale, sur les véritables enjeux qui s'opposent à nos pays. Alors, effectivement, le problème de l'éducation revient et est considéré comme une priorité depuis 50 ans, mais la réponse n'est toujours pas là, donc la question demeure. Effectivement, il y a les bailleurs de fonds, les partenaires africains doivent prendre leur part de responsabilité puisqu'ils sont également concernés par l'éducation sur le continent, en tout cas ses conséquences, ou l'absence d'éducation avec ses conséquences, notamment sur les flux migratoires. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à un véritable système éducatif. Or, je ne vois... Or, c'est très rare...
Qu'il soit adapté aux besoins du continent.
Qu'il soit adapté aux besoins du continent. Pas seulement pour se prémunir des influences extérieures, mais une éducation qui soit adaptée aux besoins, notamment aux enjeux de développement, tout simplement.
Alors, je propose d'écouter Emmanuel Macron sur les engagements de la France.
L'éducation, c'est la condition de la sécurité, de la stabilité, du développement durable, du progrès dans nos sociétés. C'est la possibilité offerte à chacune et chacun de choisir sa vie. Mais c'est surtout la seule possibilité d'avoir des sociétés libres. La France va prendre un engagement simple, clair. Elle va faire plus que multiplier par 10 son propre engagement. Et nous allons porter à 200 millions d'euros notre engagement pour le partenariat mondial.
Hichem Ben Haïch, une réaction au propos d'Emmanuel Macron ?
En tout cas, on voit l'axe majeur du choix macronien, c'est-à-dire que en direction de l'Afrique, et effectivement la bataille autour de l'éducation est un élément fondamental pour à tous égards pour le développement de l'Afrique. Et je pense que il met le curseur au bon niveau. Et je pense que ça doit pas exclure d'abord une démarche africaine en interne, parce que
c'est ce que rappelait d'ailleurs le président du Ghana. Hein.
Cette histoire de l'éducation et va déterminer en tout cas la place de l'Afrique dans les années à venir. Et c'est un élément fondamental parce que tout s'autoprogramme. On ne peut pas improviser dans ces choses-là. Ça coûte de l'argent et il y a plein de choses à dire, là, en tout cas sur le sujet.
Hein. Eric Cuomo, un mot sur cette visite d'Emmanuel Macron. C'était la 6e visite sur le continent africain depuis son arrivée à l'Élysée. Un commentaire, est-ce que ça nous éclaire un peu plus sur la politique africaine de la France aujourd'hui ?
Pas tout à fait, mais on doit tout de même relever que Emmanuel Macron marque un intérêt pour l'Afrique. Je crois que c'est le 6e déplacement qu'il effectue sur le continent. Vu d'Afrique, évidemment, les attentes sont grandes, parce que sur le continent, évidemment, les défis du développement, du point de vue politique, avec la question de l'alternance, de la démocratie sur le continent, etc., et puis la perception que les Africains ont de la France sur le continent ces dernières années, du fait des accusations d'influence dans les processus démocratiques, dans les laboratoires de fabrication des dirigeants à la tête de certaines formations politiques. Donc, on se dit, voilà, la venue de Macron sur le continent a permis de dissiper un tout petit peu ce nuage-là.
Vous partagez cet avis?
Écoutez, moi je dis qu'il ne faut pas trop demander aux dirigeants français. D'abord, j'en ai marre d'entendre dire Hollande l'Africain, Chirac l'Africain, et puis bientôt on va nous servir Macron l'Africain. Ce sont d'abord des élus de la République française qui entendent mener des relations avec l'Afrique, particulières parfois en raison de l'histoire, mais il ne faut pas trop en demander. On ne peut pas demander à M. Macron d'agir sur la crise politique actuellement au Togo. Il ne faut pas demander à M. Macron d'agir sur la crise politique en RDC. Il faut peut-être agir par les voies diplomatiques, etc., mais il ne va pas aller sur le continent pour, une fois de plus, administrer une leçon d'alternance de démocratie aux dirigeants africains. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est pragmatique. Ses voyages, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, c'était soit axé sur des problèmes de sécurité, donc au Mali, etc., sur des problèmes urgents, sur des défis aussi qui concernent la jeunesse. Et les autres volets étaient moins politiques que axés sur des défis et des enjeux réels. C'est-à-dire la jeunesse, la démographie galopante, le problème de l'éducation, etc. À Ouagadougou, ça a été le cas. Au Sénégal, ça a été le cas. Donc c'est un dirigeant pragmatique, faut pas trop lui demander d'être monsieur l'administrateur de la démocratie ou du pluralisme politique en Afrique, c'est pas son job.
Hichem Ben Yahia.
Je suis tout à fait de cet avis. Moi, je pense que Macron l'a dit lui-même, je n'ai pas de politique africaine. Ça, c'est un point important. Mais moi, je pense qu'il faut que les Africains africanisent Macron à leur manière pour imposer des choix, pour qu'il soit dans cet accompagnement. Et effectivement, il ne faut pas inverser les rôles. L'essentiel, ce sont les Africains d'abord qui sont les maîtres de leur destin. Et Macron n'est que un adjuvant,
un partenaire
pour pouvoir aller dans ce pragmatisme dont parlait Hassan.
Nous passons au Cameroun où la crise des régions anglophones se durcit. 47 membres de la République autoproclamée d'Ambazonie ont été extradés. Une extradition qui préoccupe le département d'État américain, mais dont se félicitent les autorités camerounaises, car elle est le signe de la bonne coopération sécuritaire entre le Nigeria et le Cameroun. Hassan Diop, au lendemain de la libération des indépendantistes qui étaient arrêtés à Yaoundé, on avait pensé que l'heure était à l'apaisement. Il n'en est rien.
Il n'en est rien. Alors, cette affaire d'extradition est une affaire à plusieurs volets, je dirais. Il y a le volet juridique du respect de la convention concernant les réfugiés que brandit le HCR. Ces extradés étaient en position de demande, je crois, de statut de réfugié, ou d'autres l'avaient obtenu, etc., etc. Et que donc, du jour au lendemain, on les a renvoyés au Cameroun sans, je dirais, de preuves concrètes sur les accusations qu'on porte contre eux. Parce qu'il y a une partie qui a été arrêtée à Abuja, la capitale fédérale nigériane, dont le chef de l'État de la République d'Ambazonie fictive ou République fantôme, Monsieur Sissoukou Ayouk Tabé, avec 9 comparses qui étaient, semble-t-il, des membres de son gouvernement tout aussi fictifs. Alors, est-ce que ces messieurs se préparaient en complot, etc., etc. En tout cas, on les accuse de ceci. Alors, reste au Cameroun et au Nigeria à le prouver. Voilà, pour faire taire le département d'État américains, etc. Pareil pour les autres. Alors on nous dit oui, ils étaient dans des camps de réfugiés, ils s'entraînaient, etc., avec des armes et autres. Tout ça, je dirais, aussi bien le Cameroun que le Nigeria doivent prouver effectivement ce qu'ils avancent contre ces suspects. Et à ce moment-là, ça mettra peut-être fin aux spéculations et aux condamnations. Alors l'autre volet, à mon avis, plus concernant le Nigeria, il faut bien savoir que le Nigeria ne veut pas entendre parler de séparatisme, aussi bien au Cameroun
que chez
lui.
Le
Cameroun l'a vécu avec la guerre du Biafra. Le Cameroun continue de le vivre avec ses dingues, il n'y a pas d'autre mot,
des séparatistes
du Delta, de la
Nigeria.
Région. Voilà,
ouais.
du Nigeria, de la région pétrolifère, etc., etc. Donc il faut arrêter avec ces idées de régionalisme, d'État indépendant, que ce soit en Catalogne, que ce soit en Ambazonie, ouais. Etc., etc. Et je pense qu'il est normal qu'un pays comme le Nigeria, qu'il est normal qu'un pays comme le Cameroun lutte contre, effectivement, des menées séparatistes. Maintenant, il faut avancer.
Il faut y mettre l'effort.
Non, pas seulement l'effort, mais il faut avancer des preuves que les personnes extradées, effectivement, ont commis des crimes ou s'apprêtaient à commettre des crimes.
Alors, dans les formes, est-ce qu'on reproche aujourd'hui le HCR et l'Union européenne au pouvoir camerounais?
En fait, il a tout à fait raison de poser des questions sur le pointillisme, c'est-à-dire la démarche, le pourquoi. Mais là, il s'agit clairement d'un geste politique du président nigérian. On fait la politique de sa géographie et il a montré là une volonté d'être complètement en phase avec le pouvoir camerounais. Et effectivement, les forces centrifuges au Nigeria sont nombreuses et c'est une manière de dire que...
C'est un message aux indépendantistes nigérians également.
C'est clair.
Éric Kouamo, en dépit de ce climat de tension dans les régions anglophones, le calendrier électoral sera respecté. Des sénatoriales sont prévues au mois de mars et une présidentielle au mois d'octobre.
Tout à fait. Et à ce sujet, le président de la République, Paul Biya, vient d'ailleurs de répondre à l'une des préoccupations majeures de la classe politique, à savoir la mise sur pied des constitutionnels.
Mais il y a 22 ans qu'il a été créé.
C'est ça le problème, justement. C'est ce que disent les anglophones. En fait, c'est cette incapacité pour le gouvernement camerounais à mettre en application ses propres textes. La constitution camerounaise de 1996 avait effectivement indiqué la forme de l'État. C'est voulu clair sur la forme de l'État au Cameroun. Le Cameroun est une république unitaire décentralisée. Alors, si nous restons simplement sur ces concepts, la notion de la république, le Cameroun est-il une république? Oui, on peut le dire, mais la dimension unitaire et décentralisée pose problème. Or, ces questions ont été clairement énoncé et consigné dans la Constitution de 1996. Voyez-vous, c'est seulement 22 ans après que le régime en place pense à la mise sur pied effective de cette... Donc c'est un problème et nous pensons que, venant du Cameroun, la situation est bien plus préoccupante que vous ne le pensez. Du fait d'abord de l'opacité de l'information, il y a une difficulté pour la presse à se mouvoir sur le terrain. Du fait de cette rivalité, ce conflit entre l'armée, bien sûr loyale, républicaine, et les éléments des forces de maintien de l'ordre et autres, et puis ce groupuscule qui se fait appeler les défenseurs de l'idéologie ambazonienne. Mais il faut relever ici que les Camerounais, ou la majorité, sinon la plupart de Camerounais d'expression anglaise, n'épousent pas l'idéologie de la scission, de la partition du Cameroun. Il s'agit simplement d'un ensemble de revendications pour améliorer les conditions de vie. C'est davantage un problème de gouvernance.
Pour respecter les règles énoncées au moment de l'État unitaire.
Justement au moment de l'État unitaire.
Oui, moi je pense que... Voilà. Alors ça, c'était l'autre aspect du problème. Donc cette extradition, donc, il y a un aspect juridique vis-à-vis du HR, etc., etc., des conventions. Et puis l'autre problème, c'est le problème de fond, la situation des zones anglophones du Cameroun. Nous en avons déjà parlé maintes fois ici, à Afrique Presse. Le traitement qui est fait aux anglophones est un traitement injuste. Ils sont considérés comme des Camerounais de seconde zone. Il y a des jeunes gens qui sont extrêmement brillants. Les meilleurs bacheliers du Cameroun sont des bacheliers de Bamenda, en zone anglophone. Or, lorsque ces jeunes gens passent des concours pour aller dans les grandes écoles du pays, notamment l'ENA, l'École nationale d'administration,
l'ENAM,
l'École nationale d'administration, eh bien, souvent, ils sont blacklistés, quasiment. Donc, c'est au détriment, évidemment, des anglophones et en faveur des anglophones.
Mais cette situation, si vous permettez, oui, ça n'est pas inhérente exclusivement au...
Non, mais elle n'est pas inhérente, mais en tout cas, voilà, il y a cet aspect, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect économique, etc., etc. Il y a le fait aussi que c'est l'un des sources de richesse du pays, cette région. Mais sur le plan des investissements, des infrastructures, je veux dire, il n'y a pas de retour sur l'argent que ces régions procurent au reste du Cameroun. Donc, les problèmes de fond, malheureusement, Yaoundé l'a toujours abordé de manière un peu sommaire, en parlant de terroriste. Or, il faut une réponse politique, et cette réponse politique tarde à venir.
Éric Kouamo, que risque Ayoub Tabé ?
Évidemment, c'est toute la complexité. Nous autres qui suivons la complexité de ce procès, en fait, du moins de ce fait, de cette extradition. Sur le continent, il y a justement, pour nous qui vivons l'actualité sur le terrain, sur place au Cameroun, il y a justement cette complexité à avoir accès aux sources d'informations. Oui. Vous remarquerez, par exemple, que depuis ce fait, la survenue de ce fait, le ministre de la Communication a pris du temps pour s'exprimer. Et du côté du Nigeria, c'est pareil. C'est seulement il y a deux jours, je crois, deux ou trois jours, que le Parlement nigérian a adressé la question, etc. Mais au-delà de tout, il faut reconnaître que Yaoundé paye le prix de la malgouvernance. Parce qu'effectivement, les élites qu'on dit anglophones, parce qu'en fait, pour moi, il ne s'agit pas des anglophones, il s'agit simplement des Camerounais d'expression anglaise. Ouais. Parce que les problèmes que vivent ces deux régions du Cameroun, d'autres régions les vivent, ces problèmes-là.
Mais ne l'expriment pas de la même manière.
Ne l'expriment pas de la même manière. À la seule différence qu'il y a une dimension culturelle.
Il
y a
une
dimension
culturelle
qui est assez poussée. Et je dois dire que la situation est davantage complexe. Et l'interpellation de ces leaders ambazoniens, certes, le Cameroun et le Nigeria partagent une vision westphalienne du monde, c'est-à-dire que l'État est suprême, l'État, la notion de l'État doit être préservée, doit être conservée, mais attention aux conséquences sur le terrain, parce qu'on observe déjà une montée, une poussée conflictuelle assez, de revendications assez fortes sur le terrain.
Ce sera le mot de la fin. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, Hichem Ben Yaïch de New African Magazine, dont le dernier numéro parle des 100 personnalités africaines de l'année 2017, je présume. Un mot, rapidement.
On a fait cette sélection pour montrer cette Afrique qui bouge, qui fait bouger les lignes, et d'où ce choix des 100 personnalités.
Et Éric Kouamo de la chaîne privée camerounaise Equinox, merci de votre visite.
Merci.
Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.